Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'édition d'un livre avec Guillaume Robert qui est éditeur, responsable éditorial chez Flammarion.
Bonjour.
On vient de le dire, tu es responsable éditorial chez Flammarion.
Tout à fait, tout à fait.
Mais tu es aussi directeur de publication.
Je suis aussi directeur de collection chez J'ai lu, voilà. Qui est la filiale poche du groupe Flammarion. Oui.
On reviendra justement sur le poche.
Sur cette double casquette, oui.
En fin d'interview. Et alors, il y a une actualité brûlante en ce moment, c'est la sortie.
Ah oui, c'est chaud bouillant, c'est le nouveau roman de Tania de Montaigne qui s'appelle Les caractères sexuels secondaires.
Et c'est le roman que tu portes en ce moment, c'est ça ?
Tout à fait. J'aime bien l'expression porter, j'aime bien que tu utilises ça, parce que pour moi, c'est vraiment ça. On porte, on porte un livre comme on porte un enfant. Pour moi, c'est aussi presque aussi important. Et effectivement, ce livre est sorti il y a quelques jours, il y a quelques heures. Donc, c'est mon actualité du moment et celle de Tania de Montaigne.
On va voir comment tu portes ce livre. Tu accompagnes l'auteur vers la sortie du livre et comment tu l'accompagnes après aussi, d'ailleurs. Mais évidemment, on imagine que tu n'es pas tout seul. D'ailleurs, là à côté, dans les bureaux, il y a pas mal de monde. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il y a autour de toi pour la sortie d'un livre ?
Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? En fait, la sortie d'un livre, ça reste quelque chose d'assez artisanal. Parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de monde autour de moi, parce que là, vous êtes donc aux éditions Flammarion. Mais chaque éditeur porte ses propres livres. Donc, dans le bureau d'à côté, voilà, c'est un autre éditeur qui porte d'autres types de livres, en l'occurrence des documents, de la non-fiction. Donc, moi, autour de moi, il y a surtout une attachée de presse qui nous accompagne avec Tania et qui, justement, essaye aussi de faire connaître ce livre, de le faire découvrir. L'idée, en fait, c'est qu'on est tous dans le même bateau et à un moment, peu importe les fonctions, on est tous là pour défendre un livre qu'on aime et un livre qu'on trouve formidable.
Il y a quand même des rôles qui doivent être identifiés.
Alors, il y a des rôles qui sont identifiés, bien sûr. Alors, effectivement, donc, je parlais de l'attaché de presse, donc effectivement, ça c'est pour tout ce qui est communication. Mais un éditeur aujourd'hui est un peu attaché de presse aussi, puisque voilà, il y a certains journalistes qui parfois moi s'intéressent particulièrement aux livres que je fais moi, donc c'est vrai que je vais avoir un rapport privilégié. Mais bien entendu, tout ce qui est le gros de la presse, c'est une attaché de presse qui va s'en occuper. Et moi j'adore cette relation là aussi, parce que du coup je partage le plaisir d'aimer ce livre avec quelqu'un d'autre. Et puis en amont, on en parlera peut-être tout à l'heure, voilà, il y a plein d'autres personnes qui interviennent dans la vie d'un livre. Il y a une fabricante, justement, une correctrice. Enfin, voilà, c'est toute une équipe. Lecteur, non, parce que moi, du coup, en l'occurrence, pour Tania de Montaigne.
Oui, évidemment. Dans l'absolu.
Alors, dans l'absolu, oui, il y a des lecteurs pour tous les manuscrits qui arrivent par la poste, parce que malheureusement, je ne peux pas tous les lire intégralement. J'essaie de tous les regarder. Mais là, je ne sais pas, tout à l'heure, je viens de recevoir un premier roman qui fait 600 pages. Donc, effectivement, je ne vais peut-être pas lire moi tout seul tout de suite parce que sinon je pourrais absolument pas m'occuper de mes autres auteurs.
Alors j'ai pas encore précisé, on n'est pas tous les deux, on est tous les trois. Il y a Laure qui nous accompagne.
Bonjour Laure.
Bonjour.
Et donc on va se lancer un petit peu dans cette sortie d'un livre avec qu'est-ce qui se passe avant la sortie, qu'est-ce qui se passe au moment de la sortie du livre et ensuite quel est le suivi qui est fait par rapport à ça. Mais juste avant, pour en revenir à ton activité d'éditeur, tu l'exerces depuis en gros une dizaine d'années, c'est à peu
près
ça.
Ouais, je fête mes 10 ans chez Flammarion cette année, ouais.
Bon anniversaire.
Merci.
Et tu publies des romans ?
Moi, je publie quasiment exclusivement des romans. J'en publie une petite dizaine par an pour Flammarion. Et pareil, une petite dizaine pour J'ai lu, donc une collection de poches.
Donc évidemment, tu publies Tania de Montaigne.
Alors je publie entre autres Tania de Montaigne, mais également là en ce moment, j'ai un très joli second roman d'une jeune femme qui s'appelle Audrey Diwan, dont on parle aussi beaucoup. C'est un livre qui se porte bien dans un tout autre genre. Nicolas Page, qui est un jeune artiste suisse plus conceptuel, et en même temps Annie Lemoine, qui vient de sortir son quatrième roman et qui cartonne. Donc vous voyez, c'est assez varié, mais c'est toujours du roman français.
Comme Florian Zeller, par exemple.
Comme Florian Zeller, qui est mon premier auteur. Donc, je suis éditeur grâce à lui. Puis, quelque part, lui, je ne dis pas qu'il est auteur grâce à moi. Lui, il est publié grâce à moi, vu que nous sommes rencontrés tous les deux il y a quasiment 10 ans. Ouais.
Alors, on va partir de ce qui se passe avant la sortie du livre. On va voir que pour Tania, c'est un petit peu particulier dans la mesure où, justement, elle ne t'a pas envoyé un manuscrit par la poste.
Alors si, le tout premier. Le tout premier, je l'ai... Alors, elle est venue me le déposer car on s'était croisés. On avait une amie commune. En fait, Tania avait déjà publié deux livres chez un autre éditeur. Chez Florent Massot, présente. Un éditeur que j'aime beaucoup. Et voilà, et cette maison s'arrêtait. Donc Tania, à ce moment-là, faisait pas mal de télévision et donc avait effectivement accès à pas mal d'éditeurs. Et donc elle a fait quelque chose que je trouve assez chouette. Peut-être que tous les auteurs devraient faire ça. Elle a fait une sorte de Starac des éditeurs. Elle a rencontré comme ça, voilà, une petite dizaine de personnes. Mais en même temps, c'est une très bonne démarche parce que l'idée, c'est pas seulement une marque, une maison, c'est aussi la personne avec qui on va justement défendre des livres, les prochains livres. Voilà, la personne chez qui on va poser ses valises. Donc, c'est important qu'il y ait un vrai désir réciproque de travailler ensemble. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Voilà, j'ai gagné la Starac Tania.
Alors, sinon, on t'envoie des manuscrits ?
Alors, sinon, oui, j'en reçois, effectivement, j'en reçois. Bah, avec, quand on a quelques années de métier, bon, on en reçoit de, ouais, de plus en plus. Donc sinon, voilà, j'en reçois pas mal. J'en reçois 1, 2, 3 par jour. Et j'en fais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 8 ou 10 par an. Et sachant que dans ces 8 ou 10, il y en a quand même 7, 8 ou 9 qui sont des auteurs avec qui je travaille déjà. Donc finalement, il y a une place par an et en gros, un manuscrit qui arrive par jour. Donc la place est très chère. Malheureusement.
Ça peut être envoyé par les auteurs directement ou alors par des agents littéraires. Ça se fait souvent ?
Alors en France, sincèrement, je pense que c'est un métier, le métier d'agent qui va se développer. Mais pour le moment, il y en a peu. Moi, c'est vrai que je préfère, je n'ai rien contre les agents, j'ai des amis agents formidables. Mais encore une fois, le contact direct avec les auteurs est le plus fréquent en fait. Généralement, voilà, les gens nous envoient directement un texte, oui.
Donc a priori tu peux pas tout lire, mais justement tu as des lecteurs.
Alors tout à fait, oui, non, j'ai deux lectrices deux avec lectrices. Qui je travaille depuis très longtemps. Qui, encore une fois, l'idée c'est jamais d'avoir un véritable jugement de valeur, sauf si c'est très 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 mauvais et ça arrive. Voilà. Enfin, l'idée c'est juste que ces deux lectrices connaissent mes goûts. Et m'aide justement à sortir du lot des manuscrits que moi je me sens capable de défendre. Car encore une fois, enfin moi je suis pas, voilà, je suis pas prof. L'idée c'est pas de mettre des notes, de dire que c'est bien ou pas bien. C'est juste de se dire bah tiens ça j'aime, voilà ce texte m'a surpris. Je pense que moi je vais pouvoir en faire quelque chose. Enfin donc c'est ça la démarche de l'éditeur, c'est pas du tout de voilà de noter.
Donc du coup tu revendiques pleinement cette mise en avant de tes goûts.
Bah en fait,
ton point de vue personnel, finalement, c'est bah, ce que tu aimes, c'est ce que tu peux défendre.
Au final, oui, quelque part, quand on fait des romans, je dirais qu'on est presque payé pour ça. C'est-à-dire que, bien entendu,
c'est non, métier, oui.
L'idée, c'est aussi de se dire qu'un éditeur peut avoir... c'est pas qu'une histoire de goût, c'est aussi une capacité à savoir défendre un texte. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi j'ai une palette d'auteurs qui est assez large, avec des... Moi, l'idée, c'est de jamais faire le même livre. Donc, voilà, des gens très, très différents. Donc, finalement, j'ai sans doute un goût très large. Donc, et finalement, assez grand public. Donc, l'idée, c'est aussi, voilà, de se dire que potentiellement, un éditeur a des goûts qui peuvent plaire au plus grand nombre. Donc, c'est ça qui peut être intéressant, oui.
Mais alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu reçois un manuscrit qui est vraiment... à ton avis excellent, mais qui justement correspond pas vraiment à tes goûts. Donc à peu près sur des critères objectifs, tu te dis ce roman-là vraiment doit être excellent, mais il ne correspond pas. Est-ce que tu l'envoies à un collègue ?
Oui, oui, non, ça m'arrive bien sûr. Enfin, alors ça peut être des collègues ici chez Flammarion, par exemple. Moi, c'est vrai que je ne fais pas du tout de littérature dite de genre, par exemple. Moi, je ne publie pas de romans historiques ou de romans de science-fiction, etc. Parce que j'ai pas du tout cette culture-là. Mais je sais quand même reconnaître un auteur. Donc, s'il m'arrive, voilà, un roman de SF ou historique qui a l'air absolument formidable, bah, je le propose à un collègue ici ou à des collègues dans d'autres maisons. Ça m'est arrivé, en fait, de voir certains romans sur lequel je m'étais arrêté, mais que moi, je ne me sentais pas de défendre, publié ailleurs, avec ou non du succès, quoi.
Là, on sent que tu réagis beaucoup, évidemment, sur l'attachement personnel, du coup. Est-ce que, quand même, quelque part, il y a une espèce de méthode est-ce que tu procèdes d'une certaine analyse du texte, quelque part, ou est-ce que c'est vraiment selon tes sensations?
Alors, c'est un peu irrationnel, hein, comme métier. Bah, moi, je suis très instinctif, en fait. Donc, je ne saurais pas définir... Voilà, je n'ai pas de grille de lecture précise. Encore une fois, moi, l'idée, quand j'ouvre voilà, une enveloppe avec un manuscrit qui vient juste d'arriver, j'essaye, je regarde quelques pages et j'ai envie d'être surpris, de lire un livre que je n'ai jamais lu. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Alors après, si j'ai une méthode, en revanche, ça serait surtout au moment Une fois qu'un texte m'a vraiment intéressé, c'est au moment de la rencontre avec l'auteur. Parce que ça, moi, je fonctionne vraiment là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de rencontrer les gens. Je ne peux pas publier et porter un livre et le défendre auprès d'un comité de lecture si je n'ai pas rencontré l'auteur. Certains de mes collègues le font, peuvent tout à fait voilà, aimer un livre, déjà préparer des contrats et tout, alors qu'ils n'ont pas vu la personne. Mmh. Moi, j'ai vraiment besoin de la rencontre, parce que moi, je veux sentir un désir réciproque de travailler ensemble. Pour moi, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire qu'un auteur, un éditeur, c'est un couple. Donc, c'est comme une histoire d'amour. Donc, il y a un moment, voilà, chatter sur Internet, ça ne suffit pas, il faut se rencontrer pour de vrai.
Tu dois, je pense, imaginer quelque part ce qu'il y aurait comme modification à faire sur le texte, puisque tout à l'heure, on verra qu'il y a des retouches.
Ah oui, non, bien sûr. Donc ça effectivement, en fonction...
Est-ce que tu penses, dès le moment où tu lis le manuscrit, tu dis, oh là, il y a vraiment trop de travail, ça me plairait bien, mais il y a trop de travail, je laisse tomber
ou... Alors, s'il y a vraiment, vraiment trop de travail, encore une fois, on ne sait jamais si on ne connaît pas l'auteur, s'il acceptera ou pas. Si c'est un auteur qu'on connaît...
Ah oui, donc là, tu rencontres.
Voilà. Donc là, on peut rencontrer. Et puis, s'il y en a vraiment, vraiment trop, c'est qu'à un moment c'est pas bon aussi. Donc moi l'idée c'est que je ne suis pas auteur, je suis éditeur, donc s'il faut tout refaire, c'est qu'il y a quand même un souci. Donc moi je pense, moi je suis pas un éditeur extrêmement interventionniste. Moi j'interviens quand faut intervenir ou je suggère quand il faut suggérer, mais je signe pas un livre pour le réécrire intégralement. En tout cas en littérature ça se fait peu quoi.
Là, à l'instant, quasiment, tu disais que ce que tu recherchais, c'était un livre que tu n'avais pas déjà lu, que tu n'avais pas surtout déjà publié. Mm-hmm. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui vraiment va te séduire dans un livre ?
Bah alors, je parlais de la surprise tout à l'heure. Moi, je suis... Encore une fois, c'est une question difficile parce que c'est totalement irrationnel, parce que je sais ce qui m'a plu dans les livres que j'ai édités, mais je ne sais pas du tout ce qui va me plaire dans ceux que je vais découvrir dans les jours qui viennent.
Alors justement, dans le dernier livre de Tania, qu'est-ce qui t'a un peu émoustillé ?
Moi, ce que j'aime chez Tania, c'est que c'est un mélange de plein de choses. Déjà, je trouve que son écriture, là, c'est son cinquième roman. Ce que je trouve assez formidable, c'est qu'elle a aujourd'hui une musicalité incroyable dans son écriture, sans doute parce que parallèlement, elle écrit des chansons et elle chante. Donc moi, il y a ce refrain, enfin voilà, il y a une véritable musique chez Tania, il y a un véritable humour, parce que moi, j'ai des fous rires tout seul quand je lis ses pages. Alors, je vous raconterai tout à l'heure la manière dont on travaille, parce que Tania, en fait, quand on fait un livre, elle m'envoie un chapitre par semaine. Et moi, il m'arrive vraiment d'avoir des fous rires tout seul dans mon bureau ou dans le métro si je me suis imprimé quelques pages pour les lire. Donc voilà, c'est quelqu'un vraiment qui me fait rire. Je pense qu'on partage le même humour et je pense que bon nombre de ses lecteurs se font repérer s'ils lisent son livre en public. Et en même temps, justement, ce n'est pas que de l'humour non plus. Ce que j'aime aussi, c'est le côté aigre-doux de Tania. C'est-à-dire qu'elle aborde toujours des sujets assez graves, mais sans avoir l'air d'y toucher. Donc, moi, c'est ça que je trouve très intéressant dans son travail. C'est qu'elle peut, voilà, traiter des sujets sérieux avec une grande désinvolture et être drôle là où ça fait mal. Donc, c'est ça que j'aime chez elle.
Justement, on peut parler alors de la manière dont vous avez travaillé ensemble, puisque elle ne t'a pas envoyé son manuscrit, mais vous avez déjà un mode de collaboration qui était déjà en place pour Tokyo c'est loin, donc son roman précédent.
Voilà, alors en fait on s'est connus sur le roman d'avant Tokyo qui s'appelait Geneviève et la théorie du 5. Donc celui-ci, quand je l'ai reçu, il était quasiment terminé. Donc là on a une méthode de travail assez classique, à savoir que moi j'avais aimé ce texte, j'ai fait 2-3 remarques et puis on l'a un petit peu travaillé ensemble, mais très peu. Et voilà, il est sorti, etc., puis sorti en poche. Mais c'est à partir de Tokyo qu'on a mis en place une méthode assez étonnante. Je dis étonnante parce que c'est vraiment le seul auteur avec qui je travaille comme ça. C'est-à-dire que Tania se fait une sorte de planning. Elle se dit, tiens, mon prochain livre, il fera 33, ce qui était le cas pour Tokyo, ou 25 chapitres, ce qui est le cas pour les caractères sexuels secondaires. Et ensuite, pendant 33 ou 25 semaines, elle m'envoie un chapitre tous les mardis à midi. Et moi, je l'appelle généralement avant 13h. Donc, ce qui donne justement aussi ce rythme à ces deux romans, qui sont véritablement écrits comme des romans feuilletons, parce que ça donne une énergie incroyable, en fait, au roman. C'est-à-dire que toutes les semaines, Tania se dit, tiens, il faut qu'il y ait une chute pour que Guillaume ait envie et attende la semaine prochaine avec impatience. Et ce qui a été le cas pour ces deux romans. Donc, c'est vrai que c'est un rythme très très particulier parce qu'habituellement voilà, on découvre le roman, même avec des auteurs avec qui dont j'ai déjà publié les précédents livres, mais on le découvre soit voilà, en toute fin de manuscrit, soit les auteurs vous en parlent, mais c'est très rare de lire chapitre par chapitre. Et en même temps, c'est assez rassurant pour un éditeur parce qu'on sait où l'auteur va. Parce qu'il n'y a pas d'angoisse, c'est-à-dire qu'un auteur avec qui vous avez déjà travaillé, qui ben, un jour vous donne un texte complètement fini alors qu'il ne vous en a jamais parlé, vous avez terriblement envie d'aimer, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, au moins avec Tania, il n'y a pas de surprise et il y a, voilà, j'attends mon feuilleton toutes les semaines.
Et tu lui fais des retours au fur et à mesure.
Et je lui fais des retours au fur et à mesure. Ce qui, du coup, est assez étonnant, parce qu'elle, elle sait très bien où elle va, c'est-à-dire qu'elle, elle connaît la fin du livre, déjà. Mais pas moi, elle me dit rien du tout. Donc, par exemple, dans ce livre-là, où les caractères sexuels secondaires qui se passent en grande partie dans un ascenseur, j'étais extrêmement intrigué, parce que je me disais, mais comment elle va s'en sortir ? Elle savait très bien, encore une fois. Et là, moi, j'étais encore une fois complètement comme le lecteur, sauf que le lecteur, voilà, qui va l'acheter demain, lui pourra passer toute la nuit à le lire, alors que moi, j'étais obligé d'attendre une semaine.
On a parlé des retours que tu faisais dans ce type de travail hebdomadaire. Mais comment ça se passe quand tu reçois un manuscrit en entier ? Comment fais-tu des retours à un auteur que tu as envie de publier ? Page par page, tu lui dis en général, tu lui demandes de retravailler des passages
Encore une fois, ce qui est assez intéressant dans ce métier, tout à l'heure je disais que c'était un petit peu un artisanat, mais c'est un petit côté haute couture, c'est-à-dire que c'est vraiment du sur-mesure pour chaque auteur, c'est-à-dire qu'il y a des livres où je peux tout à fait rendre le manuscrit avec des annotations sur chaque page, parce que ça va être un travail très précis d'enlever un mot par-ci, par-là. Pour d'autres, ça sera des réflexions plus générales. En fait, je m'adapte complètement, c'est-à-dire que je ne travaille jamais de la même manière, parce qu'encore une fois, tous les livres sont différents, donc c'est vraiment le rythme du livre, enfin l'énergie du livre qui donne un retour différent en fait.
Ouais, t'as pas besoin de méthode en particulier.
J'ai pas de méthode, non.
Peut-être
non,
même
non.
Au contraire, plus t'as de liberté, plus tu peux faire
bien
ça
sûr,
de manière
bien sûr, ouais.
Plus la qualité
en fait, moi,
sera présente pour toi.
En général, j'aime pas appliquer voilà, des méthodes ou des grilles de lecture. Donc encore une fois, voilà, l'idée c'est de fonctionner à l'instinct et de proposer à chaque auteur, car chaque auteur est unique et chaque livre est unique, bah, une méthode différente et un travail différent.
Donc tout est possible et peut-être même par exemple le choix du titre. Est-ce que là, par exemple, des fois, tu t'en mêles ?
Ah bah bien sûr, oui.
Est-ce que c'est toujours le cas ?
Non, alors c'est pas toujours le cas. En fait, je dirais qu'il y a deux catégories d'auteurs. Il y a les auteurs qui sont très bons en titre et les auteurs qui sont très nazes en titre, mais qui peuvent être par ailleurs de très très bons romanciers.
Parce que c'est vrai que quand on édite des articles pour la presse, bien souvent, les éditeurs font le titre, enfin, les rédacteurs en chef font le titre, pas forcément l'auteur.
Oui, pas forcément le journaliste, ouais. Là, pour les romans, bah, c'est un petit peu pareil, en fait. Il y a des auteurs qui sont vraiment attachés à leur titre et souvent ils ont raison parce qu'il peut être vraiment bon. Par exemple, là, encore une fois, pour les caractères sexuels secondaires, ce livre s'est toujours appelé comme ça avant même que le premier chapitre soit écrit. En revanche, voilà, j'ai des auteurs qui me proposent des livres que je trouve absolument formidables, mais avec des titres qui le sont beaucoup moins. Et c'est là que j'interviens et que je dis « Ah non ». Alors vraiment, je crois que ce livre est absolument parfait. On a juste un gros, gros souci, c'est que ce titre n'est pas possible. Et voilà. Et en même temps, généralement, encore une fois, si on travaille ensemble, c'est qu'on est dans une relation de confiance. Donc si l'auteur me fait confiance, ben on réfléchit ensemble à un titre différent. Moi, j'aime bien, oui, intervenir à cette étape-là. C'est intéressant. C'est extrêmement important aujourd'hui. Enfin, le succès d'un livre est avant tout lié à son titre. Voilà. Sauf si l'auteur voilà, est tellement connu que quelque part les gens viennent chercher le dernier Gavalda ou le dernier Coelho, je sais pas. Mais quand l'auteur l'est un petit peu moins, c'est vrai que le titre est voilà, c'est le prénom du livre, c'est une accroche extrêmement importante, oui.
Et j'imagine que du coup tu travailles sur les autres aspects du livre et de sa couverture en particulier avec les auteurs, c'est-à-dire sur ben là par exemple pour l'exemple de ce livre, les caractères sexuels secondaires, il y a un travail typographique, un travail d'illustration. Derrière, il y a une photo, il y a une quatrième de couverture, donc avec un texte qui doit nous donner une idée de ce qu'est le livre.
Alors ça, pareil, c'est vrai qu'on fait tout ensemble, c'est-à-dire qu'on n'impose jamais rien à un auteur. Donc on lui propose, on lui soumet. Donc encore une fois, quand c'est une couverture illustrée, bah, généralement, c'est le procédé est simple, en fait. C'est le process est simple, en fait. L'éditeur brief un directeur artistique ou un studio graphique avec une idée un petit peu précise. Le graphiste interprète ce brief, et alors que souvent il n'a pas encore lu le livre, et ensuite nous soumet des couvertures. L'éditeur fait un petit peu son choix et soumet celles qui lui semblent les plus pertinentes à l'auteur. Mais là, par exemple, dans le cas de Tania, encore une fois, elle me fait... comme c'est le troisième livre qu'on fait ensemble, on sait l'un et l'autre ce qu'on aime, et donc il n'y a pas eu d'autres versions de cette couverture, en fait. On l'a juste affinée. On a affiné, comme c'est une longue silhouette, on a corrigé quelques détails, mais c'est tout. L'idée était là dès le début, et il n'y a pas eu d'autres couvertures.
À ce moment-là, le livre est prêt ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose ?
Alors, à ce moment-là, le livre est prêt. Alors, là, on a abordé tous les aspects techniques, c'est vrai, la couverture, la quatrième de couverture.
On a parlé de la retouche du texte aussi.
La retouche du texte, etc. Il y a tout un pan, en fait, extrêmement important, en fait, dans la vie d'un livre, c'est toute la dimension commerciale. C'est-à-dire que le livre, il n'arrive pas en librairie tout seul comme ça, le jour de la sortie. En amont, nous avons donc des représentants qui vont de ville en ville, de librairie en librairie, parler de ce texte.
Avant même que le livre existe.
Avant même que le livre existe. Non. C'est-à-dire, ça va être dans les 3 à 6 mois avant la sortie du livre.
Est-ce qu'il existe physiquement
Alors, le livre n'existe pas physiquement. Il sera livré un mois ou deux avant sa sortie. Mais il existe sous forme d'épreuve ou tout simplement sous forme de jeu papier. Et donc, les représentants y ont accès. Et donc, ils l'ont lu, ils l'ont aimé, ils ont envie de le défendre. Et voilà, et ils en parlent à tous les libraires de France, de Suisse, de Belgique. Pour que les libraires aient envie de le commander et soient au courant de cette nouveauté.
Est-ce que c'est envoyé aussi à la presse au même moment ?
Alors c'est envoyé à la presse 2 mois avant la sortie. Deux mois avant parce que c'est tout simplement le temps de bouclage des mensuels qui bouclent de plus en plus tôt maintenant. Donc c'est vrai que c'est important de leur envoyer, encore une fois, pour leur permettre de découvrir au plus vite le livre et que les premiers articles sortent au moment où le livre est en librairie et pas 2 mois après.
Évidemment, là on commence à parler de date, donc évidemment pour la sortie peut-être que tu vises une date en particulier pour tel livre.
Bien sûr.
La rentrée littéraire, le salon du livre, etc.
Il y a vraiment, oui, 3 temps forts en fait quand on publie des romans français. Il y a donc la rentrée, donc fin août, qui est vraiment le grand moment où on publie le plus de romans en France. Je crois que la rentrée dernière, il y avait quasiment 750 nouveautés françaises. 750 nouveaux livres, peut-être qu'il y avait les étrangers dedans quand même, parce que ça fait beaucoup. Donc il y a septembre, il y a janvier qui est maintenant une deuxième rentrée littéraire et moi un moment que j'aime bien car il y a un petit peu moins de livres et donc un peu plus de place pour permettre de faire découvrir de nouveaux auteurs. Donc moi c'est un moment que j'aime beaucoup. Et puis il y a mars, effectivement, autour du salon du livre, avant le printemps, les gens ont envie de terrasse au soleil avec un bon livre. Et en même temps, comme il y a le salon, c'est aussi un moment où la presse, où les lecteurs s'intéressent au livre. Il y a un coup de projecteur sur notre métier. Donc c'est vrai que ça peut être un moment intéressant.
Est-ce que vous essayez d'exploiter aussi tout le système en ligne à travers les blogs ou des réseaux de communication comme MySpace ?
Bien sûr. Oui, moi, par exemple, pour tous mes... je crée des pages fan club Facebook pour tous mes auteurs. Alors MySpace, on y est un petit peu moins parce qu'il y a un petit peu moins de gens. Je pense que pour la musique, c'est encore très fort, mais pour d'autres activités culturelles, ça l'est moins. Donc bien entendu, Facebook, mais on est également... moi, je suis très attentif à tous les blogs. Il y a plusieurs blogs que j'aime beaucoup et à qui j'envoie des livres en exclu pour... qu'il puisse éventuellement le chroniquer et en parler. Donc oui, moi je suis attentif à tout type de support.
Et il y a des retours, parce que c'est aussi un outil de communication, peut-être de liaison avec...
Bien sûr, il y a un retour. Enfin, c'est ça qu'on attend, justement. Justement, c'est ça que je trouve formidable avec Facebook, c'est qu'on a véritablement un retour direct avec les lecteurs. Par exemple, quand on organise une dédicace en librairie, c'est absolument formidable aujourd'hui, parce qu'avant, on ne savait pas trop... on l'annonçait, mais on savait pas trop où ça allait, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut, à partir voilà, d'une page fan d'un auteur, toucher directement des lecteurs et tout simplement les informer, parce que c'est... alors encore une fois, on va parler de marketing, etc. Moi, je pense que c'est quand même plutôt de l'artisanat, mais c'est juste, voilà, parce qu'un lecteur est ravi de rencontrer l'auteur qu'il aime, et puis un auteur est absolument ravi qu'il y ait du monde quand il va dédicacer quelque part, que ce soit en librairie ou dans un salon du livre.
Et donc là, on peut demander à tout le monde d'aller sur Facebook dans le groupe J'aime Tania de Montaigne.
Tout à fait, venez, venez, il y a encore un petit peu de place.
On en arrive au stade de la sortie. Pour que le livre sorte, il faut qu'il, bah, pour le coup, existe physiquement quand même, pour qu'on le trouve sur les rayons des librairies. Il faut qu'il soit imprimé. Est-ce qu'il y a des choses en particulier liées à cette impression
Alors sincèrement, l'impression de roman, c'est assez simple, hein, parce que donc, quand il n'y a pas d'image, c'est quand même beaucoup plus rapide. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, on peut réimprimer aujourd'hui un livre en 3 jours. Donc quand il s'agit d'un roman.
Alors justement, la question à laquelle je pensais, c'est qu'il y a sûrement un calibrage à faire en termes de tirage.
Bien sûr. Bah ça, c'est tout simplement lié à ce qu'on appelle la mise en place, à savoir que le jour où le livre sort, encore une fois, je parlais des représentants tout à l'heure, comme ils ont bien fait leur travail, il y a des commandes qui sont prises, qu'on appelle des notées. Et donc là, voilà, donc nos commerciaux nous disent, bah voilà, il y en a 3, 4 ou 5 000. Et donc après, voilà, l'éditeur fixe un tirage en fonction de cette mise en place. Voilà, il se garde un petit peu d'avance quand même. Donc je sais pas, aujourd'hui, c'est des calculs assez simples. Quand on en a 5 000 de mise en place, on va tirer à 7 ou 8 000. Vous voyez, on se garde une petite marge. Pour le début du livre, pour aussi les exemplaires voilà, gratuits envoyés à la presse, etc. Donc voilà, et après on affine, et encore une fois, comme un roman c'est assez simple à imprimer et assez rapide, on tire assez juste, sachant que c'est très très simple de réimprimer derrière.
Et qui s'occupe de la distribution ?
Alors, qui s'occupe de la distribution, à savoir donc envoyer que tous ces romans aillent dans toutes les bonnes librairies. Alors, il se trouve que Flammarion est une maison qui possède sa propre structure de diffusion-distribution. Donc c'est nous. C'est nous, non, donc ça s'appelle UD Distribution. Et donc, ils envoient voilà, des colis absolument partout dans le monde francophone.
Il faut aussi envoyer le livre... à la BNF, a priori, pour le dépôt légal.
Bien sûr, pour le dépôt légal, oui. Je ne sais plus combien d'exemplaires c'est. Mais alors ça, oui, je pense que c'est notre fabrication qui s'occupe de ça.
Et puis, il y a d'autres exemplaires qui partent un petit peu partout. À qui est-ce que les livres sont envoyés ?
Alors, au moment où le livre sort, bah, c'est...
Tout à l'heure, on parlait des blogs, peut-être.
Alors, pourquoi pas, oui. Donc, après, moi, quand je dis presse, c'est presse au sens large. Effectivement, ça va de Enfin, voilà, c'est la radio, c'est la télé, c'est la presse, c'est les blogs, c'est Internet. Enfin, c'est tout type de personnes qui s'intéressent au livre. Mais après, ça peut aussi être... justement, on parlait de films tout à l'heure ou de pièces de théâtre, mais on peut aussi l'envoyer à des producteurs, à des réalisateurs pour leur donner envie, pourquoi pas, d'adapter un roman, oui. Et ça peut être extrêmement important aussi. Aujourd'hui, maintenant, dans chaque maison d'édition, il y a des départements de session audiovisuelle, enfin dans les grandes maisons, de départements de session audiovisuelle, justement, qui sont censés faire découvrir nos romans, enfin nos livres en général, en fait, à des producteurs pour imaginer d'autres vies, en fait, aux livres.
Alors là, dans le scénario qu'on déroule, tout se passe bien, c'est un petit peu le scénario idéal,
oui.
Mais forcément, il y a des moments où ça doit coincer.
Alors jamais avec mes livres.
Qui ne vendent absolument pas, ou des choses comme ça.
Bah, bien sûr, bien sûr. Bah, mais de toute façon, c'est ça qui nous excite dans ce métier, c'est que de toute façon, il n'y a absolument pas de règles, c'est un coup de poker à chaque fois. Donc bien entendu, il y a des aventures qui s'annoncent plus faciles que d'autres. C'est-à-dire quand un auteur est déjà un petit peu connu, déjà installé, plutôt apprécié, on sait que globalement, ça ne va pas trop mal se passer. Quand c'est un premier roman, bah, tout est possible. Là, par exemple, je sors en fin août, donc à la rentrée littéraire, un premier roman. Moi, je l'adore, je trouve ce texte formidable. Il s'appelle « Les restes de Jean-Jacques ».
Et c'est toi qui as choisi le titre ?
Non, c'est l'auteur.
Non, d'accord.
C'est surprenant, en tout cas.
Ah oui, là, pour le coup, c'est surprenant.
On parlait de surprise tout à l'heure. Donc là, par exemple, voilà, pour un premier roman, bah, on ne sait pas du tout ce qui va se passer.
Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que le livre est sorti et qu'à partir de là, on suit
À partir de ce moment-là, dès que le livre est en librairie, donc, et l'auteur, et l'éditeur, et l'attaché de presse, on s'agite dans tous les sens pour qu'il se passe des choses. Alors parfois, les choses viennent à nous directement, hein, Dieu merci. Donc voilà, il y a pas mal des gens qui suivent soit le travail de l'auteur, soit les publications de l'attaché de presse, soit des gens qui ont repéré le travail d'un éditeur. Donc voilà, ils vont directement regarder ce qui se passe.
Des interviews,
mais, alors c'est surtout pour l'auteur, hein.
Oui, bien sûr.
Mais voilà. Mais effectivement, il y a tout ça, donc tout ce travail-là. Mais il y a aussi, moi, ce que j'aime bien, une activité que je trouve assez importante, c'est aussi d'aller à la rencontre des lecteurs. Donc, par exemple, avec Tania, on va faire plusieurs salons du livre. Donc, on était présents au salon du livre de Paris, bien entendu. Mais il n'y a pas que Paris. On a des lecteurs partout en France. Et donc, voilà, nous serons à Bordeaux début avril, je crois le premier week-end d'avril au Salon du Livre de Bordeaux, et on va faire d'autres villes comme ça à la rencontre des lecteurs.
Dans les salons, mais aussi sûrement dans les librairies.
Dans les salons et dans les librairies, tout à fait. Alors peut-être un peu plus dans les salons, parce que c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de monde, donc c'est l'occasion de rencontrer encore plus de lecteurs, mais dans les librairies aussi ça peut être fort sympathique.
C'est peut-être l'occasion de faire des lectures.
Alors malheureusement ça se fait peu en France, les lectures. Et c'est dommage. C'est vrai que les anglo-saxons le font énormément, c'est-à-dire qu'aux États-Unis on n'imagine pas la tournée d'un auteur sans une lecture dans une vingtaine de villes. En France ça se fait très peu, pour deux raisons. Déjà, les auteurs sont pas forcément très friands des lectures, à part, parce qu'encore une fois c'est quand même un vrai métier, hein, c'est-à-dire que moi j'aime bien les lectures par des comédiens. Il y a des auteurs qui ont un talent fou mais qui savent pas du tout lire leur travail, ou qui seront extrêmement gênés, timides. Encore une fois, ça dépend aussi de la nature du livre, hein, parce que si c'est un peu impudique, etc., enfin pas impudique, mais il y a des livres vraiment intimes, ça peut être très dur, très violent de lire ça devant, de lire son intimité devant 50 personnes. Je sens qu'il y a une question là.
Oui, c'est vrai que Tania, en plus, elle a une voix assez, comme elle est chanteuse également, elle a une voix assez agréable, on l'imagine assez bien.
Elle a surtout un rire extrêmement communicatif.
Oui, ben ça, je ne sais pas, on verra encore une fois la remarque, mais... Et en plus, justement, on parlait de la rythmique dans ce livre, moi aussi,
bien
je trouvais que c'était aussi très important. À la fois au niveau vraiment à la page, il y a comme ça des répétitions tout le temps, et même dans la globalité du livre, comme ça, on disait ça tout à l'heure, moi je l'ai ouvert, j'ai pas pu le refermer avant d'avoir fini, quoi. Je l'ai lu d'une traite. Donc on l'imagine assez bien, ouais, faire une salle de lecture.
J'aimerais bien, mais on nous a pas encore proposé. Amis libraires, si vous nous écoutez.
Il y a aussi les prix.
Bien sûr. Alors à cette saison, voilà, quand on est sur le premier semestre, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a effectivement. Par exemple, le roman Tania a été sélectionné dans un prix qui s'appelle le prix Lila, de la Closerie des Lilas. Voilà, c'est comme le prix de Flore, mais en mars. Et puis pas au Flore, à la Closerie des Lilas. Donc oui, il y a des prix à cette saison, mais c'est vrai que le gros des prix littéraires sera plutôt à l'automne. Donc ça, alors ça c'est complètement différent, parce que là c'est vraiment encore une fois un coup de poker absolu, c'est-à-dire qu'on est sélectionné ou on ne l'est pas. On a beau tout faire pour figurer dans des sélections, à savoir en parler. Alors pardon, je me reprends. Quand je dis tout faire, c'est-à-dire en parler, voilà, au plus grand nombre, communiquer énormément, etc. Mais voilà, c'est il y a tellement de candidats que ce qu'il faut avant tout, c'est faire un très très bon livre pour avoir la chance de figurer dans une sélection.
Au niveau du suivi, il y a forcément aussi les revues de presse, revues de web.
C'est-à-dire qu'on est attentif à tout. Là, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, moi je venais de découvrir un article formidable justement sur le livre de Tania dans Femme Actuelle. Donc en plus, un magazine qui a un taux de rotation, je crois, de quasiment 10 millions de lectrices.
C'est
donc
énorme, ouais.
C'est absolument énorme. J'ai plus à avoir aucun livre en stock. Donc oui, on est attentif à tout. Encore une fois, pour nous, c'est un retour. Donc on est content de savoir, de voir la manière dont on parle du livre. Déjà, on est content qu'on parle du livre. Et c'est intéressant et ça peut être constructif, parce que même un mauvais papier, parfois, s'il n'est pas gratuitement méchant, peut être intéressant dans son angle d'attaque pour les livres d'après. C'est-à-dire, on se dit, ça, nous, ça nous plaisait, visiblement, ça n'a pas plu. Si, en tout cas, le reproche est formulé plusieurs fois.
Ouais. Il m'arrive aussi, moi, d'acheter un livre ou autre chose en ayant lu, ou d'aller voir un film en ayant lu ou entendu une critique négative, parce
Bien sûr.
Justement, je connais la personne qui fait la critique et donc... Parfois, ça peut marcher aussi comme ça.
Bien sûr.
Ouais.
Bah, d'où le voilà, moi mon unique règle, c'est du moment qu'on en parle, on existe quoi. Enfin, c'est faudrait que je le reformule mieux là mon truc. Non. Mais c'est plutôt ça effectivement. Pour moi, l'essentiel, voilà, c'est qu'on en parle.
Et alors, quelle réaction par rapport au, justement à ce que tu citais là à l'instant, les critiques qui pourraient être juste méchantes gratuitement
Moi,
ça doit beaucoup varier en fonction des auteurs, j'imagine.
Oui, disons qu'il y a des auteurs, bizarrement ou pas, qui attirent beaucoup plus la critique que d'autres. Donc, ou alors c'est ou certains types de livres plus que d'autres. Donc, encore une fois, si c'est basé sur une vraie lecture du livre, c'est intéressant. Si c'est sur la personne, l'auteur, ça n'a quand même aucun intérêt, quoi, parce qu'on est avant tout là pour parler et défendre un texte, quoi. Donc si on parle, voilà, si on parle de détails physiques de l'auteur, quand même, je vois pas trop l'intérêt.
Alors le suivi, c'est aussi le suivi des ventes.
Bien sûr, tous les jours, derrière l'ordinateur, à regarder s'il y a des réassorts. Un réassort, en fait, ce sont les commandes supplémentaires. Donc voilà, un livre qui démarre bien, c'est un livre qui a des commandes supplémentaires dès le début. Donc on est attentif à ça tous les jours, tout le temps.
Donc quelque part, il y a une gestion d'un stock.
Bien sûr.
Et parfois, il faut rééditer.
Et parfois, il faut réimprimer, oui. Donc oui, c'est ce qu'on souhaite à chaque fois même. On veut tout le temps réimprimer. Et parfois, voilà, on réimprime des livres plusieurs fois.
L'idée, là, il a été édité à combien d'exemplaires, le dernier livre de Tania ?
Alors, les caractères sexuels secondaires, si je ne me trompe pas, doit être imprimé à 7 ou 8 000 exemplaires. Et voilà, comme il est sorti depuis une semaine à peine, je n'ai pas encore réimprimé, mais je souhaite le faire très bientôt.
Vu cet article dans Femme Actuelle.
Voilà, avec les 11 millions de lectrices.
Quand on aura fini l'interview, là, tu regarderas et peut-être.
Tout de suite. Alors, il sort que lundi.
On en arrive à ta deuxième casquette, forcément.
Oui.
Ce boucle.
Oui.
Puisque, après les rééditions. Après les réimpressions, vient forcément la sortie en poche.
Tout à fait. Donc
enfin,
ça,
je dis forcément.
Forcément non, parce
forcément
que.
Pour Tania.
Alors forcément pour Tania, qui pour n'est pas dans ma collection en poche.
Ah d'accord.
Tania est publiée en poche aux éditions Pocket, alors que moi je m'occupe d'une collection chez J'ai lu qui s'appelle Nouvelle Génération. Donc, vous voyez, il y a pas de, je ne publie pas forcément mes propres livres en poche. Alors déjà non, c'est un. Pour ceux qui nous écoutent, c'est assez atypique en fait qu'un éditeur grand format s'occupe parallèlement d'une collection en poche. Moi, il se trouve que c'est une toute petite collection voilà, qui publie 8 ou 10 livres par an, donc qui a fêté ses 10 ans l'année dernière et qui s'appelle Nouvelle Génération. Une collection pour laquelle, voilà, pour les 10 ans, on a fait un recueil de 10 nouvelles inédites avec tous les auteurs phares de cette collection, qui sont aussi bien, voilà, les premiers auteurs de cette collection, en fait, étaient Virginie Despentes et Michel Houellebecq, etc.
Ouais, d'ailleurs, il y a un groupe sur Facebook.
Tout à fait, aussi, qui s'appelle 10 ans, 10 auteurs, 10 nouvelles. Bref, donc, effectivement, ne sortent en poche que les livres qui ont eu quand même un certain succès, un certain écho. Donc tous les livres n'auront pas cette chance-là. Moi, c'est vrai qu'avec cette collection, je peux peut-être m'autoriser plus de choses, car c'est une collection qui montre de nouveaux talents, d'où son nom de nouvelle génération, de nouvelles voix. Et donc, c'est vrai que je peux aussi faire découvrir aux lecteurs de poche des textes qui ne sont pas encore d'énormes succès de librairie, parce que l'idée, justement, c'est de leur faire découvrir des textes qu'ils n'auraient pas encore repérés.
Est-ce qu'on a fait le tour, en fait ? On a fait une boucle, mais est-ce qu'on a fait un tour vraiment complet ?
Alors, je pense qu'on a fait un tour complet, oui, de la vie du livre. Enfin, après le poche, je sais pas, encore une fois, on parlait tout à l'heure, on peut rêver du film, etc. Enfin,
ah oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. C'est sur les droits pour d'autres exploitations.
Mais ça peut être aussi les ventes à l'étranger, c'est-à-dire que là, vous êtes dans mon bureau, derrière moi, vous voyez voilà, toutes les éditions de Florian Zeller édition américaine, édition coréenne, enfin voilà. Bref, il y en a dans plein de langues possibles. Donc ça aussi, c'est assez excitant, c'est-à-dire que c'est de voir ce livre, ce roman que vous avez reçu un jour en manuscrit, voyager de pays en pays. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite en fait pour chaque livre.
On va terminer par quelques petites questions. Rendez-vous création, ce que tu as appris à l'école et qui te sert le plus aujourd'hui ?
À lire.
Ce que tu as appris avec l'expérience et qui te sert le plus ?
Écouter les auteurs, parce que encore une fois, un éditeur n'est pas seulement la personne voilà, qui s'occupe d'un texte ou qui porte un livre, mais c'est quand même voilà, une oreille attentive, quelqu'un qui est là, qui est présent, et voilà, qui est un peu psy, assistante sociale. Donc voilà, écouter, c'est important.
Ce qui a le plus changé dans ton travail depuis que tu as commencé ?
Ce qui a le plus changé, c'est surtout, moi, il y a un moment très important dans ma vie professionnelle et lié, c'est qu'en fait, un de mes auteurs, donc Florian Zeller, a eu le prix Interallié le jour même de mes 30 ans. Mmh. Donc déjà, 30 ans, c'est un âge important, mais en plus, avoir voilà, un prix littéraire que Flammarion n'avait pas eu depuis 1953, donc c'était extrêmement important. Donc oui, c'est un jour où tout a un peu changé, oui.
Et alors, concrètement, qu'est-ce qui a basculé
Concrètement,
ça a changé les choses vraiment.
Ça a changé les choses parce que c'est encore une fois, c'est donc il n'y a pas beaucoup d'éditeurs de ma génération. Moi aujourd'hui, voilà, j'ai 34 ans et voilà, je dois avoir en tout cas éditeur de romans français. On n'est pas très très nombreux dans cette génération là. Et c'est vrai qu'avoir la chance de publier un livre qui a un grand prix très jeune, c'est vrai que ça m'autorise un petit peu, ça m'a autorisé de continuer, tout simplement.
Déjà, ouais.
Et puis voilà, de faire des livres que j'aime, parce que visiblement, les livres que j'aime peuvent plaire. Donc ça m'a permis voilà, de continuer et de ne défendre que des auteurs que j'aime.
Qu'est-ce que tu vas faire différemment à l'avenir ?
Qu'est-ce que je vais faire différemment à l'avenir ? Mais rien, c'est très bien comme ça. Non, mais après, moi, justement, au contraire, ce que je vais essayer de continuer, c'est de pas publier trop de livres, justement, continuer à savoir dire non pour vraiment ne publier que des livres que j'aime et pas faire de livres pour de mauvaises raisons, et surtout en publier peu pour vraiment avoir l'occasion de m'en occuper au mieux.
Puisque tu as été un jeune éditeur, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait débuter ?
Alors, je le suis encore. Qu'est-ce que je conseille ? Je conseillerais aux gens, aux personnes qui veulent faire ce métier, de faire des stages le plus tôt possible. Mmh. Et puis aujourd'hui, voilà, il existe des formations vraiment très au point pour ces métiers, à savoir, il y a par exemple un master d'édition à Paris 4, la Sorbonne. Je le cite parce que c'est celui que j'ai fait, puis aujourd'hui j'y interviens en tant qu'intervenant professionnel, mais il y en a également un à Villetaneuse, enfin il y en a partout en province aussi, mais voilà, donc il existe des formations d'éditeurs à la fac, donc voilà, pour moi c'est ça le secret, c'est-à-dire le maximum de stages dans tout type de structure, hein, et puis pas seulement en édition, ça peut être en librairie, c'est extrêmement important aussi, enfin voilà, toutes les étapes de la vie d'un livre, c'est important de connaître tous les métiers liés au livre. Et si c'est possible, parce qu'en même temps, ces formations voilà, prennent très très peu de candidats, mais essayer de faire ces formations, voilà, ces Master 2 professionnels spécialisés en édition.
Parfait, merci Guillaume.
Merci à vous.
Salut.